Mes chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la sainteté et le titre pour aujourd'hui, on pourrait l'intituler « La grâce qui est à venir ». La grâce à venir. Dans son livre « To End All Wars », Ernest Gordon, il raconte l'histoire vraie d'un groupe de prisonniers de guerre britanniques contraints de travailler à la construction d'une voie ferrée à travers toute la jungle birmane au cours de la Seconde Guerre mondiale. Une scène particulière est restée vraiment gravée dans son esprit et c'est le livre qui a été même porté à l'écran sous le même titre traduit par Chiang Kai, c'est-à-dire le camp des survivants, dans la version française. Donc, la journée de travail était terminée, l'heure était au comptage des outils, comme à l'accoutumée. Alors qu'il s'apprêtait à donner l'ordre de rompre les rangs, le garde japonais s'est interrompu tout à coup et il a crié qu'il manquait une pelle. Quelqu'un l'avait donc volée pour la vendre au Thaï. C'est ce qu'il prétendait. Passant et repassant à grandes enjambées devant les prisonniers alignés, il se mit à les tancer vertement, leur reprochant leur mauvaise conduite et surtout, faute absolument impardonnable, leur ingratitude à l'égard de l'empereur. Alors qu'il tempêtait ainsi, une fureur délirante s'est emparée de lui. Braillant en mauvais anglais, il a ordonné que le coupable s'avance pour recevoir son châtiment. Évidemment, personne n'a bougé. Car au fond, personne n'avait volé la pelle. La rage du garde alors a atteint des sommets de violence inimaginables. Il a crié à haute voix, « Vous tous mourir, tous mourir !» Et pour bien montrer qu'il plaisantait pas du tout, il arma son fusil, le porta à son épaule et se mit à viser, prêt à tirer sur le premier homme qui se trouvait dans la ligne de mire. Or à cet instant-là, un nommé Argyll Highlander s'est avancé et il se mit parfaitement au garde-à-vous. Et il a déclaré très calmement, c'est moi qui a volé la pelle. Le garde déchaîna alors toute la haine qu'il avait accumulée. Il s'est jeté sur le prisonnier sans défense. Il l'a roué de coups de pied et de poing. Et sans broncher, Argyll resta figé dans un garde-à-vous impeccable. Le sang dégoulinait sur son visage. Alors, saisissant son fusil par le canon, il le leva bien haut au-dessus de sa tête et comme pour en finir, il a abattu le fusil sur le crâne d'Argyll, qui évidemment s'est écroulé sur le sol, mort, inerte. Alors qu'il ne faisait aucun doute qu'il était bel et bien mort, le garde a continué de le rouer de coups jusqu'à en être lui-même épuisé. Puis les hommes de la brigade ont ramassé le corps de leurs camarades, l'ont chargé sur un brancard, et ils ont aussi chargé leurs outils sur leurs épaules, et ils se sont mis en marche en direction du campement. Or, lorsque les outils ont été recomptés une nouvelle fois au poste de garde, eh bien, écoutez bien ça, il ne manquait aucune pelle, aucune. Le garde avait tout simplement mal compté, et le jeune soldat qui s'était dénoncé pour éviter que tous ses camarades soient fusillés, il n'avait pas volé la pelle du tout, mais il avait donné sa vie pour ses camarades. Quelle était la signification de cet acte, chers amis? C'était un simple sens du devoir. Voyez-vous, il y a plusieurs façons de faire l'éloge du sacrifice de ce jeune homme. On pourrait dire, voilà le genre de sens du devoir que nous aurions besoin de voir un peu plus à l'œuvre en ces temps d'égocentrisme et de lâcheté. Mais on pourrait aussi dire, et c'est ainsi que je le formulerai, voilà donc le genre d'amour que produit la foi véritable dans la grâce à venir. Et c'est ce genre d'amour dont nous aurions tellement besoin en ces temps d'égocentrisme et de lâcheté, dans ces temps où même certains pays que nous n'allons pas nommer par politesse utilisent même des armes chimiques pour venir à bout de leurs ennemis. C'est authentique encore aujourd'hui. Je crois que nous sommes le 5 mars 2018. Chers amis, ces deux façons de faire l'éloge de ce sacrifice ne sont pas forcément contradictoires, mais elles peuvent l'être. La première le présente comme une sorte de sens du devoir, tandis que la seconde évoque la puissance transformatrice de la foi dans les promesses de Dieu. Si l'on oppose ces deux façons de voir, il convient de se demander de quel genre de devoir il s'agit vraiment. Et c'est là la question essentielle. En effet, vu de l'extérieur, l'acte en lui-même ne permet pas de trancher. Que se passait-il vraiment dans le cœur de cet homme, tant par rapport à Dieu que par rapport à ses congénérés? Car la Sainte Bible nous avertit que l'on peut sacrifier sa vie sans pour autant aimer son prochain ou Dieu. Si même je sacrifiais tous mes biens, est-il dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3, et jusqu'à ma vie pour aider les autres, et aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, eh bien cela ne me sert absolument de rien. Voyez-vous, en écrivant tout cela, l'apôtre Paul affirme très clairement qu'il existe un type de sens du devoir que Dieu n'honore absolument pas et qui ne sert absolument à rien. Chers amis, une autre manière de décrire le sacrifice de ce jeune soldat consiste à dire que c'est la foi dans la grâce à venir qui se mettait à résonner dans son cœur. et lui a donné ainsi l'amour et le courage de sacrifier sa vie, il a sacrifié sa vie pour ses camarades. Et il se peut qu'il ait eu tout un coup cette fameuse pensée, « Oui, Jésus, tu es mort pour moi, tu as donné ta vie pour moi, mes péchés sont maintenant pardonnés, et par ton sacrifice, j'ai la vie éternelle. Eh bien oui, je t'aime, tu es mon grand trésor, je désire ardemment être avec toi plus que jamais. Mes amis ne sont pas du tout prêts à mourir, eux. Oh, je le sais, je les connais. Le Christ, il est lui. Ma vie et la mort m'est un gain. Me voici donc. Peut-être lui a-t-il fallu seulement 15 secondes pour se rappeler ce que le Christ avait fait pour lui et que cela signifiait pour son avenir, tout son avenir après sa mort. Et c'est alors, en se souvenant par sa foi dans la promesse de Dieu, eh bien oui, il s'est accusé lui-même pour sauver ses camarades. Il était prêt à se faire exécuter pour les sauver. Voilà ce que produit la foi véritable dans la grâce à venir. Je répète, par la grâce et dans la grâce à venir. La différence entre le sacrifice inspiré par le seul sens du devoir et celui inspiré par la foi dans la grâce de Dieu à venir, c'est que le premier, il met l'accent sur la force de ma détermination, tandis que le second, il met en avant la gloire de la grâce de Dieu. Eh bien, chers amis, ce CD, il a pour but de rendre gloire à la valeur de l'œuvre de Jésus-Christ en alimentant notre foi dans la grâce à venir et en aidant les chrétiens à lutter contre l'inverse, c'est-à-dire contre l'incrédulité dans les promesses de Dieu, qui, eux, conduisent à commettre des péchés qui déshonorent Jésus-Christ. Nous allons maintenant nous attacher ici au défi très concret que nous avons à relever en tant que chrétiens, comme nous libérer de l'angoisse, de l'orgueil, de la honte inappropriée, de l'impatience, de la convoitise, de l'amertume, du découragement et de la luxure. Je suis convaincu, chers amis, que c'est l'incrédulité dans les promesses de Dieu, autrement dit, dans la grâce à venir, qui constitue la racine qui nourrit ses péchés en nous. Chers amis, parvenir à la foi dans la grâce à venir, ça, c'est un combat. Combattre l'incrédulité, cela signifie en fait de vivre par la foi dans la grâce à venir. En effet, l'incrédulité à laquelle je pense est un manque de confiance dans les promesses de Dieu pour l'avenir qui sont censées étayer notre obéissance indéfectible. Ces promesses se rapportent à ce que Dieu a choisi d'accomplir pour nous dans l'avenir, et c'est ce que j'entends par l'expression « la grâce à venir ». C'est une grâce parce qu'il s'agit de quelque chose qui est bon pour nous et qui est totalement immérité. Et elle est donc à venir en ce sens-là qu'elle ne nous a pas encore été accordée, mais qu'elle peut l'être dans les 5 secondes qui vont venir maintenant. Et pour le chrétien, les promesses de Dieu, elles sont spectaculaires. Elles se rapportent à la fois à notre avenir immédiat, c'est-à-dire avant la fin de la minute en cours, et à notre avenir éternel. Écoutez maintenant une des promesses de Dieu, plutôt quelques promesses que Dieu nous donne. J'en citerai que quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup trop. Prenons Philippiens chapitre 4, verset 19. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Prenons le psaume 23, verset 6, qui nous dit « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagnent. » Prenons maintenant le psaume 84, verset 12, où il est dit « L'Éternel me refuse aucun bien, aucun bien. Il refuse à tous ceux qui cheminent dans l'intégrité. » Et prenez Ésaïe, chapitre 41, verset 10. « Car moi je suis ton Dieu, et je t'affermis. Je viens à ton secours. Je viens, pour sûr, et je te soutiens. Je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Et notez encore, 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 21 à 23, « Car tout est absolument à vous, l'univers, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ, lui, il est à Dieu, son Père. » Et notez maintenant Saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, et cela jusqu'à la fin du monde. Et pour terminer, Romains, chapitre 8, verset 38, verset 39. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien, absolument rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Eh bien, chers amis, ces promesses, comme des centaines d'autres. Elles figurent dans la Sainte Bible pour nourrir tout simplement notre foi dans la grâce de Dieu à venir. Or, au bout du compte, le don suprême qui nous est promis, eh bien, c'est Dieu lui-même. Car si le Christ est mort, c'est avant tout non pas pour que les choses aillent bien pour nous, mais pour nous conduire à Dieu. Le Christ lui-même, il a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Oui, lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, et cela afin de vous conduire à Dieu. Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Qui, chers amis, ai-je vraiment au ciel, si ce n'est que toi? Et ici-bas, que désirer? Car je suis avec toi, nous dit le psaume 73, verset 25. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. Psaume 16, verset 2. Oui, tout ce à quoi je pourrais me confier, eh bien je le considère comme étant une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Philippiens chapitre 3, verset 8. Et il y en a encore beaucoup d'autres que nous pourrions noter. Chers amis, l'essence de la foi dans la grâce à venir, c'est d'être dans le contentement en raison de tout ce que Dieu notre Père céleste promet d'être pour nous en Jésus-Christ. Cependant, il nous faut pas perdre de vue que lorsque je parle de la foi dans la grâce à venir ou de contentement par rapport à ce que Dieu promet d'être pour nous, je pars du principe qu'une part essentielle de cette foi et de ce contentement qui consiste à considérer le Jésus-Christ comme étant celui qui a donné comme victime propitiatoire et dans l'obéissance absolument parfaite à Dieu son Père, il nous est donc imputé en vertu de notre foi. Autrement dit, la foi dans la grâce à venir, elle prend en considération non seulement l'ensemble des promesses elles-mêmes, mais le fondement sur lequel elle repose. Elle reconnaît donc toute sa valeur au Christ comme étant celui dont le sang et la justice constituent le fondement de toute grâce à venir. Et elle accorde donc une grande valeur à tout ce que Dieu promet d'être pour nous en Jésus-Christ, en vertu de cette œuvre fondatrice. Chaque fois que je parle de la foi en termes de contentement par rapport à tout ce que Dieu est pour nous en Jésus, eh bien j'englobe chacun de ces aspects. Cette foi, c'est la puissance qui coupe la racine du péché. Le pouvoir du péché, il réside en effet dans ses promesses. Il nous tient ce discours qui dit « Si tu mens sur ta déclaration de revenus, eh bien tu auras davantage d'argent pour t'acheter ce qu'il te fait plaisir. Si tu regardes de la pornographie, eh bien tu éprouveras un plaisir plus fort que la joie d'avoir une bonne conscience. Si tu manges ces gâteaux sans que personne ne te voie, cela apaisera ta peine et c'est ce qui t'aidera le mieux à tenir le coup en ce moment. Personne ne pêche par devoir, mais nous péchons parce que nous ajoutons la foi aux promesses trompeuses du péché de notre ennemi qui est Satan. Or la Sainte Bible nous met en garde. Elle dit qu'aucun d'entre vous soit ou se laisse tromper par le péché et qu'il ne s'endurcisse surtout pas. Les promesses du péché ne sont autres que des mensonges. Combattre l'incrédulité et lutter pour la foi dans la grâce à venir, Cela revient à combattre le feu par le feu. Cela veut donc dire répondre aux promesses du péché par les promesses de Dieu. C'est donc se saisir de telles promesses glorieuses que Dieu a faites à propos de notre avenir et de répondre à un péché particulier en disant « Essaye un peu d'égaler tout ça ». Or, c'est précisément ce à quoi nous exhorte l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 13. Par l'Esprit Saint, nous dit-il, faites donc mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps. Le fameux théologien John Owen, qui a écrit tout un livre uniquement sur ce verset, il l'a résumé par ces mots. Tuez le péché ou c'est lui qui vous tuera. Si nous voulons tuer ou mettre à mort nos actions pécheresses avant qu'elles ne se produisent, eh bien nous devons couper la racine, oui, la racine qui les alimente, c'est-à-dire les mensonges du péché. Le faire par l'Esprit Saint, eh bien c'est d'abord s'en remettre à la puissance de l'Esprit Saint, puis manier l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de manier la sainte parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. La parole de Dieu, c'est essentiellement l'Évangile, mais c'est aussi tout ce que Dieu a dit dans sa sainte parole révélée. L'Évangile de la mort et de la résurrection du Christ est non seulement le cœur, mais c'est le fondement de toute la promesse de Dieu. C'est donc là-dessus que repose toute la logique de Romains chapitre 8, verset 32, où il est dit « Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ?» Donc tout ce dont nous avons besoin, c'est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu qui nous est assuré du fait que le Père n'a pas épargné son Fils bien-aimé. Ou bien, pour l'exprimer de façon positive, nous pouvons avoir l'assurance de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu parce que il a envoyé son Fils de vivre et de mourir ici-bas afin d'effacer tous nos péchés et de devenir ainsi notre justice. Donc, par conséquent, quand je dis que nous manions la sainte parole de Dieu, l'épée de l'Esprit Saint, eh bien je veux dire par là que nous nous accrochons à cette vérité de l'Évangile qui a le Christ pour centre et que nous comptons sur elle et toutes ses promesses dans chaque situation de notre vie. Pour priver le péché de son moteur, il faut donc le contrer au moyen d'une promesse encore plus grande. Ou bien, pour l'exprimer de façon plus positive, c'est la foi dans la grâce à venir qui permet de libérer le flot de l'amour. C'est donc en faisant confiance aux promesses de Dieu que nous devenons aimants. Chers amis, la Sainte Bible dit que Jésus a enduré la croix parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Hébreux chapitre 12, verset 2. Autrement dit, le plus grand sacrifice d'amour qui ait jamais été accompli, il l'a été en vertu de l'assurance que a traversé ce sacrifice. Dieu conduirait donc Jésus-Christ dans la joie éternelle en présence d'un peuple d'adorateurs rachetés. Et c'est aussi ce qui alimente notre amour à nous. Il y a toutefois une différence. Voyez-vous, si nous sommes prêts à endurer les sacrifices de l'amour parce que nous avons en vue la joie qui nous est réservée, eh bien c'est uniquement en vertu du sacrifice de Jésus qui a été prêt à faire de même. C'est donc sa souffrance qui nous octroie le pardon des péchés et qui nous donne la liberté d'aimer. Notre souffrance sur le chemin de l'amour n'a de sens que par rapport à la sienne. Sa joie future lui revenait de droit, et la nôtre est une grâce qui est acquise au prix de ce sang, de du sang précieux de Jésus. Donc, chers amis, sa souffrance, elle n'est pas simplement un modèle, mais elle est le fondement de notre espérance. C'est donc par sa souffrance que nous sommes sauvés du péché et du jugement. Néanmoins, pour lui comme pour nous, cette souffrance est endurée parce que nous avons en vue la joie qui nous est réservée. Sa joie était donc un droit à venir, et la nôtre est une grâce à venir. Par conséquent, sans la mort et sans la résurrection de Jésus, autrement dit, sans la grâce passée, nous ne pourrions compter sur une grâce à venir. La grâce à venir de Dieu envers nous, elle a été acquise et elle a été garantie par sa grâce passée envers nous, manifestée à travers la mort et à travers la résurrection de Jésus. Comme nous l'avons vu, c'est ce que déclare l'apôtre Paul dans un des versets les plus merveilleux de la Sainte Bible. Dieu le Père, lui qui n'a pas même épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Ça, c'est la grâce passée. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Ça, c'est la grâce à venir. Romains chapitre 8, verset 32. Je répète parce que c'est très, très important. Dieu le Père, qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Ça, c'est donc la grâce passée. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout, absolument tout avec lui? Ça, c'est la grâce à venir. Notez au passage la glorieuse logique du ciel, comme Dieu n'a épargné aucune souffrance à son Fils pour nous sauver et pour nous racheter, il ne s'épargnera donc aucun effort dans sa toute-puissance pour nous donner tout ce dont nous avons besoin à jamais. Une grâce à venir, absolument certaine, sera donc offerte à tous ceux qui placent leur confiance dans le Christ Jésus, car Dieu, il l'a garanti de manière infaillible en n'épargnant pas son Fils. Chers amis, pour terminer notre étude d'aujourd'hui, c'est en vainqueur que nous menons le bon combat. Or, voici ce que nous lisons au verset suivant. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera maintenant? Le Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est maintenant à la droite de Dieu et il intercède pour toi comme pour moi. Romains chapitre 8, versets 32 et 34. Cela signifie que grâce à Jésus-Christ, Dieu nous a justifiés. Alléluia. Le temps est donc au passé. Nous sommes d'ores et déjà considérés comme étant justes en Jésus-Christ. Personne ne peut plus nous condamner. Le Christ, il est mort pour nous et il vit pour nous. En conséquence, nous combattons l'incrédulité et le péché en sachant qu'en Jésus-Christ, nous avons déjà la victoire définitive. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons donc déjà notre place au ciel. Alléluia. C'est le Christ qui est notre justice. C'est encore en lui que nous sommes rendus parfaits. Si nous recherchons la sainteté, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas encore acceptés par Dieu, mais tout simplement parce que nous le sommes déjà. Voici donc comment l'apôtre Paul a exprimé cette vérité. Il a dit « Je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. » Philippiens chapitre 3, verset 12. Chers amis, je vous invite donc à vous engager avec moi dans le combat contre l'incrédulité à l'égard des promesses de Dieu. Je vous invite donc à mener le combat de la foi dans la grâce à venir. Et je vous invite toujours à vous réjouir de ce que nous pouvons mener ce combat, non pas comme s'il était secondaire, mais en sachant qu'il a infiniment d'importance et que Dieu est avec nous jusqu'à la fin. Ne sois donc pas angoissé, ma chère âme, car moi, je suis ton Dieu et je t'affermis. Et je viens à ton secours, et pour sûr, je te soutiens de mon bras droit, qui va faire justice. Ésaïe 41, verset 10. Chers amis, nous allons maintenant, si vous voulez bien, prier ensemble. Je crois que je jette tout par-dessus bord, on dirait, et nous allons, si vous voulez bien, prier ensemble, tout simplement. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous voudrions être des disciples et les héritiers de ton royaume. Que tes disciples que nous sommes, que notre consécration, qu'elle ne soit pas purement extérieure seulement, mais qu'elle soit vivante et surtout qu'elle soit intime. Ô Dieu merveilleux, notre Père céleste, ni la chair ni le sang ne peuvent rien révéler, mais toi seul, tu peux nous dévoiler ce qui est éternel et divin. Arrache toi-même les écailles de nos yeux, de mes yeux. Que nous y soucions, nous aussi, comme l'apôtre Pierre, que nous puissions contempler ton Fils avec le regard de l'Esprit et de reconnaître, oui, en parole et en acte, qu'il est le Christ Jésus, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et maintenant, j'aurais voulu, avant de vous mettre quelques chants d'un très lointain passé, j'aurais voulu vous transmettre quelque chose pour vous aider dans votre combat journalier et aussi pour vous encourager. Écoutez bien. Préparez-vous à souffrir 1000 adversités, 1000 traverses dans cette misérable vie, car voilà partout ce qui vous attend, ce que vous trouverez partout, en quelque lieu que vous vous cachez, tôt ou tard, vous serez confrontés à la croix. Et à cette foule de maux et de douleurs, il n'y a d'autre remède que de vous supporter vous-même. Buvez donc avec joie le calice du Sauveur. Si son amour vous est cher et si vous désirez avoir part à sa gloire, laissez Dieu disposer de ses consolations, qu'il les répande comme il lui plaira. Si vous vous appliquez à être ce que vous devez être, à souffrir et à mourir, bientôt vos peines s'endouciront et vous aurez donc la paix. Quand vous aurez été ravi avec saint Paul, et cela jusqu'au troisième ciel, vous ne serez pas pour cela assuré de ne rien souffrir. Je vous montrerai, dit Jésus, combien il faut qu'il souffre pour mon saint nom. Actes chapitre 9, verset 16. Plût à Dieu que vous soyez digne de souffrir quelque chose pour le saint nom de Jésus. Quelle gloire vous sera réservée! Quelle joie parmi tous les saints! Avec quelle joie vous devez souffrir quelque chose pour Jésus, lorsque tant d'autres souffrent beaucoup plus pour le monde. Sachez et croyez fermement que votre vie doit être une mort continuelle et que plus on meurt à soi-même, plus on commence à vivre pour Dieu. Nul n'est propre à comprendre les choses du ciel s'il ne se soumet à supporter les adversités pour Jésus-Christ. Rien n'est plus agréable à Dieu, rien ne vous est plus salutaire en ce monde que de souffrir avec joie pour Jésus. Et si vous avez à choisir, vous devez plutôt souhaiter d'être affligé pour lui que d'être comblé de consolation, parce que vous serez alors plus semblable à Jésus-Christ et plus conforme à tous les saints. Car notre mérite et notre progrès dans la perfection ne consistent point dans la douceur et dans l'abondance des consolations, mais plutôt dans la force de supporter de grandes tribulations et de pesantes épreuves. S'il y avait eu pour l'homme quelque chose de meilleur et de plus utile que de souffrir, Jésus-Christ nous l'aurait appris. Il nous l'aurait appris par ses paroles et par son exemple. Car manifestement, il exhorte à porter la croix et les disciples qui le suivent et tous ceux qui voudraient le suivre, ils disent « Si quelqu'un veut marcher sur mes pas, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Saint Matthieu chapitre 21, verset 23. Alors, allons donc avec tout et examinons tout. Concluons enfin qu'il nous faut passer, chers amis, par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et chers amis, maintenant, je vais essayer de vous mettre quelques chants d'un très lointain passé. Oh oui, ce n'est pas hier, mais il est possible que ça fonctionne pas très bien, parce que c'est vieux, et ça a parfois des ratés. Essayons quand même.
Mais tant que l'homme chérit sans péché, Jésus ne peut rien. S'il se croit fort pour le maîtriser, Jésus ne peut rien.
Je crois, Seigneur, que toi seul tu es le vainqueur de Satan. Il m'a aveuglé.
Quand Jésus-Christ vécut sur la terre, ô Dieu, quel tourment! Les hommes jaloux s'en débarrassèrent. Mon Dieu, quel tourment!
Pourtant, Jésus
thank you.
pardonne à qui se repent. Pour toi, l'heure sonne, c'est toi qui l'attends.
Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.
Reviens à ton père, ici tu péris. Son eau désaltère, reviens à tout prix. Pour crois à sa grâce, sa paix.
Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père.
Reviens à ton père, ses biens sont pour toi. Entends sa prière, reviens sans effroi. Sa main toi maintenant, sa voix bien connue dit « Viens mon enfant ».
Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir.
Crois à sa grâce, sa paix est pour toi. Chez lui, prends ta place.
En vérité, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.